France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, le débat sur le débat à la une des informés de France Info. Notre réussite sera collective ou ne sera pas, prévient Bruno Le Maire. Le débat chiche, mais la confiance et la colère des Gilets jaunes ne vont pas disparaître avec une lettre, prévient une figure du mouvement, vous l'entendrez. Emmanuel Macron, en 5 pages et plus de 30 questions, a mis sa concertation nationale en marche. Un collège de 5 garants indépendants sera rendu public vendredi, annonce ce soir Edouard Philippe. En toile de fond de la contestation, eh bien, il y a les élections européennes. Objectif numéro 1 du Rassemblement national qui veut prendre sa revanche sur la présidentielle. Une Europe quelque peu absente de la lettre du président aux Français à Rome. Matteo Salvini jubile après l'arrestation de Cesare Battisti, y rendu possible parce que la donne politique mondiale eh bien, a changé. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Sophie de Menton.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. À mes côtés également, bonsoir Chloé Morin.
Bonsoir.
Politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Avec moi ce soir, mes partenaires du lundi des informés. Bonsoir François Dorcival.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous, Stéphane Vernet. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Débat mode d'emploi ou presque, Matignon annonce ce soir donc que 5 garants vont être nommés vendredi, désignés par le gouvernement, également respectivement par le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat et par le président du Conseil économique, social et environnemental. On écoute les propos d'Edouard Philippe sur le perron de Matignon.
Aujourd'hui, comme je m'y étais engagé, j'ai précisé les conditions d'organisation de ce débat, afin que chaque Français puisse se saisir de cette opportunité pour dire ce qu'il veut, pour faire en sorte que ces conférences citoyennes régionales qui verront des Français tirés au sort s'exprimer sur ce qui remontera du débat, puisse avoir lieu, et avoir lieu dans des bonnes conditions, des conditions d'indépendance, des conditions d'impartialité, des conditions qui permettent à chacun de savoir que sa parole ne sera pas biaisée, ne sera pas méconnue, ne sera pas mal exploitée, si j'ose dire, mais bien au contraire entendue et correctement portée. Pour cette raison, nous avons prévu la constitution d'un collège de sages, de garants, qui veilleront au respect de ces principes d'indépendance, ils seront indépendants, d'impartialité du débat, qui finalement pourront répondre aux questions qui se posent, qui viendront écouter et qui seront les personnes référentes auxquelles, vers lesquelles se tourneront le comité d'organisation, la mission d'organisation du grand débat national, qui sera créé par un décret qui sera publié au Journal officiel demain. Ces garants, ces sages, seront nommés vendredi.
Alors Sophie de Menton, première réaction au propos du Premier ministre. Vous y croyez, vous, à ce débat, avec la structuration qu'il est en train de prendre ce soir ?
Ce qui m'inquiète, c'est que je ne comprends pas bien. Donc déjà, je trouve que c'est mauvais signe. Et ensuite de ça, j'ai des réflexes de chef d'entreprise. Donc on sait à quel point une organisation dans une entreprise pour essayer d'entendre les gens, pour faire remonter des informations est difficile. Là, je ne comprends pas le sens de ce débat. D'abord, qui va débattre avec qui ? Il n'y a pas de débat. Il y a des gens dont on va relever les opinions et les commentaires. C'est une forme de cahier de doléances, par exemple. Ensuite, des garants de quoi ? Ils vont aller dans des mairies, je suppose. Ils vont aller déposer ce qu'ils ont à dire. Que vont faire ces garants ? Voilà, pourquoi ce serait déformé ? Je ne comprends pas.
Vous n'y croyez pas tellement, en fait. Voilà, vous n'êtes pas convaincu.
Oui, et puis surtout, enfin, on y reviendra, mais il y a d'autres problèmes qui se lèvent.
Stéphane Vernet, le dispositif vous semble un brin plus clair ce soir ?
Alors non, enfin moi j'y crois et je pense que on a besoin de ce débat pour transférer l'action qui aujourd'hui est une action. Enfin on a atteint des sommets en matière de tension, d'affrontement et je pense que redescendre dans l'arène, c'est-à-dire transférer, utiliser des mots C'est-à-dire débattre, utiliser des mots, c'est un moyen aussi, si on arrive à mettre des mots sur le problème et dans ce conflit, c'est une façon de faire redescendre la tension et de sortir de la spirale de la violence qui, pour le coup, est très inquiétante. Donc moi, ce débat, j'en attends beaucoup. Par contre, ce que j'en vois, et moi je comprends ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que la méthodologie qui est proposée est peu ou prou, à peu près celle qu'envisageait la Commission nationale du débat public. Le problème, c'est que la Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante et qu'elle est vraiment indépendante et qu'elle était tout à fait légitime et bien placée pour organiser les choses.
Alors,
Ben voilà, elle a l'expertise, le savoir-faire. Et donc, moi, j'étais pas inquiet sur la façon de procéder pour donner du sens à tout ça. Par contre, quand je vois qu'on nous dit que finalement ce sera piloté par une mission interministérielle, un des points clés de la réussite de ce débat, c'est ce que Emmanuel Macron dit lui-même dans sa lettre aux Français, il faut que l'organisation soit qu'il y ait une garantie d'indépendance et de transparence. Si vous dites que les garants seront deux ministres et que
Sébastien Lecornu, on rappelle de qui il s'agit, Emmanuel Wargon, absolument.
Et si on va chercher des gens qui sont nommés par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par des institutions qui sont remises en cause par les Gilets jaunes eux-mêmes, même si les choses fonctionnent, il va y avoir un procès qui sera fait à cette démarche.
Vous le sentez comme ça
déjà ce soir. Ah bah oui, le risque, il est là.
Vous êtes d'accord avec ça, vous?
Vous pensez
qu'il peut y avoir un doute du fait de la personnalité des deux ministres qui vont animer le débat?
Non, mais les choses vont être comme d'habitude et il le faut. Transparente, garantie, avec une loyauté absolue, très bien. Mais enfin, là, maintenant, nous avons un calendrier. Donc, nous avons, devant ce calendrier, deux questions. Première question, ce calendrier fait que nous allons avoir deux mois de débat qui se concluent le 15 mars et le 15 avril, le président de la République prend position. Il prend position en retenant du débat un certain nombre de points dont il va faire sa politique. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui me paraît majeure, c'est qu'est-ce qui me conduit à aller débattre? Aller débattre? Alors, Stéphane a un argument, c'est de dire qu'il faut sortir de la tension et des défilés et des cortèges du samedi. Mais qu'est-ce qui va me convaincre d'aller déposer un cahier de déléance.
Vous doutez du déclic en ce qui concerne les Gilets jaunes.
Mais absolument. Oui, mais c'est embêtant de partir sur un mot qui est faux, débat. Un débat.
Bon, vous savez quoi, on va en discuter dans un instant, on va en débattre justement. Chloé Morin va avoir la parole dans une seconde, mais tout d'abord, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benèche.
C'est une information de nos confrères de France 3. L'attentat de Strasbourg en décembre dernier a été préparé pendant plusieurs mois. Depuis des semaines, son auteur, Chérif Chekat, a tenté de trouver notamment des armes auprès de trafiquants. L'attaque de Strasbourg le 11 décembre dernier a fait 5 morts, 10 blessés. Leurs noms, encore inconnus, seront dévoilés vendredi. Un collège de 5 garants va être nommé pour garantir l'indépendance du prochain grand débat national. La grande consultation pour répondre à la colère des Gilets jaunes démarre demain. Avant l'augmentation du prix des péages au 1er février, les sociétés d'autoroutes mettent aujourd'hui une proposition, entre autres, sur la table de la ministre des Transports. Offrir des abonnements à tarifs préférentiels pour les usagers réguliers. Au service de l'État maintenant d'examiner tout cela, la ministre des Transports annonce une nouvelle rencontre avec les sociétés d'autoroutes dans les tout prochains jours. Une zone blanche créée à la frontière avec la Belgique pour empêcher l'arrivée de la peste porcine africaine sur le territoire. Tous les sangliers dans ce périmètre seront abattus dans les prochaines semaines. Deux sangliers infectés par cette maladie ont été retrouvés morts il y a 5 jours maintenant en Belgique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Chloé Morin, je vais vous faire réagir à ces propos qui ont été tenus ce matin par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui présentait ses vœux à Bercy et a évidemment évoqué le grand débat national.
Volonté d'abord d'entendre les Français. C'est le sens de la lettre que les Français viennent de découvrir et qui leur a été adressé ce matin par le président de la République. Volonté de réussir au service de tous les Français. Notre réussite, qu'elle soit économique, financière ou autre, notre réussite sera collective ou elle ne sera pas. Il n'y aura pas d'un côté des Français qui réussissent et de l'autre les Français qui sont dans la difficulté. Les Français ont dit non à travers les manifestations des dernières semaines à cette division entre la France qui réussit et celle qui n'y arriverait pas.
Bruno Le Maire, Chloé Morin lance une sorte d'appel, au fond, à la solidarité nationale.
Je pense que beaucoup de Français sont conscients que le problème, ça n'est pas juste le problème du gouvernement, c'est l'ensemble du système qui peine aujourd'hui à refléter les demandes et les aspirations qui émanent d'une partie de la population. Donc, de ce point de vue-là, quand il dit que l'échec ou la réussite sera collective, on peut dire en tout cas que l'échec sera, enfin, qu'aucune opposition ne tirera bénéfice de l'échec du gouvernement, ou alors ce sera Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et encore. Puisqu'on a bien vu que lorsqu'il y avait une liste gilet jaune dans les intentions de vote pour les européennes, c'était avant tout Mélenchon et Le Pen qui perdaient des voix au profit des gilets jaunes. Après, je pense que effectivement le risque que le gouvernement mettre en place un dispositif qui n'est pas jugé suffisamment clair, suffisamment transparent et finalement qui soit cela invalide en fait l'ensemble du débat. Or, le but du débat, c'est quand même de ramener autour de la table des gens qui aujourd'hui sont dans une forme pas tellement de violence, parce que je pense que les auteurs de violence ne vont pas nécessairement aller débattre, mais au moins qui sont dans une forme de défiance extrêmement marquée vis-à-vis du gouvernement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui se joue quelque chose d'extrêmement important.
Vous évoquez ce fameux déclic dont parlait François Dorcival. Mmh. Sophie de Menton, vous n'êtes pas plus convaincue, vous, ce soir. Vous avez même tweeté aujourd'hui, à propos de la lettre du président de la République, on va la commenter également, que vous n'ayez pas forcément, c'était ironique, j'imagine, tout compris, ou du moins qu'elle était un peu trop haut de gamme pour vous, c'est ça,
Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est très subtil. C'est-à-dire qu'il a parfaitement décrit, en tant que président de la République, tous les problèmes qui se posent à la France. Mais il me demande de répondre. Je me suis sentie concernée, parce qu'il faut se sentir concernée. Il me demande de répondre. Et je lisais, je me disais, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Par exemple, définir le nouveau contrat social. Je peux faire une dissertation de 5 heures sur définir le nouveau contrat social. Je pense que c'est bien expliqué, c'est une lettre intéressante dans le détail et la description des problèmes français. Je comprends mal le contact et la réponse que les Français vont apporter. Je comprends mal ce qu'on va retenir de ce que les Français ont dit, parce que c'est pas un sondage. Donc, est-ce représentatif? Ça, c'est un autre problème. Que va-t-on retenir? Qui va le retenir? Et finalement, qui décidera d'en faire quelque chose.
Stéphane Vernier, ça vous agace, ce scepticisme de ce fil Menton ou pas?
Non. Moi, je pense que la question est mérite d'être posée. Encore une fois, moi, je pense que le débat, il est important, mais le fait de commencer par le confier à deux ministres et de dire on va désigner des garants, on vous dira qui ce sera, enfin, on vous donnera leur nom vendredi, et je pense que ça montre bien à quel point la défection de Chantal Jouanneau et du CNDP met le gouvernement dans l'embarras. Ils sont pas prêts. Voilà.
Le risque, c'est que les gens aient l'impression, in fine, que le gouvernement a juste cherché à adouber les orientations qui étaient les siennes.
Mais il est là le risque, il est là le danger.
Mais naturellement. Et comment en serait-il autrement? Vous prenez une émission de télévision d'il y a quelque temps, où vous aviez le président de la République, c'est pas sous ce quinquennat-là, ça date un peu. Il y a le président de la République et vous aviez un échantillon représentatif des Français.
Pensez à Jacques Chirac,
par exemple. Oui. Et alors, les représentants en question exprimaient un certain nombre de questions qu'ils avaient préparées à l'avance avec la production, et tout ça était naturellement transparent, loyal, tout était garanti, et donc les questions étaient posées au président de la République qui répondait. Bon. Et qui répondait sur sa politique. Alors, on a l'impression que Emmanuel Macron reprend la campagne qu'il avait conduite et qui d'ailleurs a été gagnée puisque elle a permis son élection à la présidence de la République. Mais c'est pas ça, puisque il nous dit dans le même temps ce que j'ai fait depuis 18 mois, ça, c'est on n'y touchera pas, mais en revanche, on reconstruit ce qui n'a pas encore été fait.
Il ouvre de nouveaux sujets.
Alors, je vous propose juste une petite parenthèse. Au fait, qu'est-ce qu'en pensent les gilets jaunes? On va continuer cet échange là-dessus. Pas facile d'embrasser donc les réactions des uns et des autres, forcément. Voici en tous les cas l'une d'elles. Il s'agit de Aïk Chanihian, qui est un des cofondateurs de Gilets jaunes, le mouvement, sur France Info.
une seule lettre en une journée, cette méfiance ne peut pas disparaître, cette colère ne peut pas disparaître. Donc les gens se méfient, les gens n'y croient pas, les gens pensent que c'est fait pour justement amadouer un petit peu et démobiliser les gens. Ça, c'est ce qui ressort du terrain, et vous l'avez montré également. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement est-ce qu'on peut ressortir grandi de tout ça? Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai envie de dire chiche.
Oui, Stéphane Vernet, chiche. Celui-ci dit chiche, d'autres noms.
Hein. Oui, mais il a raison. C'est complètement ça, en fait.
D'autres noms.
Si l'idée, c'est de dire tout ça, c'est pour nous imposer les vues du gouvernement, de nous démobiliser. Si c'est le sentiment majoritaire qui prédomine ce soir, alors l'opération, elle est tuée dans l'œuf. C'est pour ça que je regrette, moi, que ce ne soit pas la CNDP qui est porté ce débat. Encore une fois, ils avaient le savoir-faire. Ouais. Ils savent recueillir la parole collective et la construire. Là, on ne sait pas. Et ce qui manque dans la lettre d'Emmanuel Macron, l'autre point clé au-delà de l'organisation transparente et indépendante, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qui va sortir du chapeau. Et là, en fait, il dit qu'il y sera très attentif, qu'il a la volonté qu'il rendra compte dans le mois qui suit. Très bien, dont acte. Il faut le prendre au mot, parce que c'est important. Mais le problème, c'est que ce n'est pas assez précis.
Oui, je reprends la question qui a été posée par Sophie de Menton, qui est « Mais quel débat ?» Et effectivement, alors, s'il y a un débat, on comprend le rôle de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Wagron. Mais deux secrétaires d'État, pour l'ensemble des débats, qui va répondre au nom du gouvernement à tous ces cahiers de doléances qui vont être remplis dans je ne sais combien de mairies, dans je ne sais combien de préfectures et de sous-préfectures? Qui va répondre au nom du gouvernement? Il faut bien, en effet, s'il y a un débat, c'est un débat avec le gouvernement. Sans ça, je ne vois pas bien de quoi il s'agit, cahiers de doléances.
De doléances, oui. Chloé Morin.
Non, moi, je pense que c'est la question de ce que le gouvernement va en faire est extrêmement importante, parce que il y a deux postures possibles. Soit vous avez un certain nombre de colères, d'aspirations, de demandes qui sont exprimées, et le gouvernement est dans une forme de mimétisme, comme beaucoup de responsables politiques le sont, de l'opinion. Soit il est dans une forme de confrontation et il affronte les perceptions, parce que de toute façon, on sait que dans ce qui va être exprimé, il y a des perceptions contradictoires, il y a des perceptions aussi erronées. Et donc la difficulté, c'est comment est-ce que le gouvernement va se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il va assumer le fait de, sur certains points, être en désaccord avec la majorité des Français?
Allez, 20h20 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Les noms des 5 garants de l'indépendance du grand débat national dévoilé vendredi. Le Premier ministre l'annonce ce soir. 2 de ces garants seront choisis par le gouvernement, les 3 restants par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. La grande consultation pour apaiser la colère des Gilets jaunes démarre demain dans l'heure. La famille de cette patiente morte aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris en décembre dernier porte plainte contre X. Aujourd'hui étaient publiées les conclusions de l'enquête interne liée à ce décès. Elle met en lumière des dysfonctionnements importants, dont un délai de prise en charge trop important pour cette femme de 55 ans. La boîte noire du Mirage 2000 écrasée mercredi dernier dans le Jura, retrouvée au cours du week-end. Elle doit être transmise maintenant pour analyse à la Direction Générale de l'Armement. Les résultats devraient permettre d'y voir plus clair sur les raisons de ce crash qui a fait 2 morts. Le mondial de handball avec ce nouveau match pour la France est face à la Corée, coup d'envoi dans 10 minutes. Les Français restent sur 2 succès consécutifs face au Brésil et à la Serbie.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Cela fait suite à ce que nous disions sur ce plateau à l'instant. Je vous propose d'écouter Aurélien Taché, qui a émis une sorte de bémol au sujet de la nomination de Sébastien Lecornu et Emmanuel Wagron, le député La République En Marche du Val d'Oise, invité de France Info, qui espère tout de même, évidemment, dans le succès de ce débat.
Ça me choque pas, mais je trouve que ça aurait été intéressant d'aussi faire appel à la société civile. Alors, je comprends qu'il y aura un collège de garants de la société civile et que Emmanuel Wagron jouera juste le rôle de coordinatrice de ce collège. Donc, pourquoi pas, c'est une autre formule, et que Sébastien Lecornu fera la même chose pour les élus. Mais il faut que d'abord, on crédibilise bien le fait que ce débat, il sera libre, qu'il partira du terrain, que tout le monde doit pouvoir s'y exprimer.
Sophie de Menton, vous voyez, ce parlementaire émet quand même une sorte de doute. Hein. Il y a toujours ce problème d'image de celles et ceux qui vont encadrer le débat.
Oui, ça, je comprends pas vraiment non plus, parce que je comprends déjà pas ce qu'ils vont encadrer, et je comprends pas très bien à quel endroit ils vont être dans le débat. Donc, si vous voulez, je peux pas en plus les suspecter. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'il faudrait signaler aussi, c'est que, on a quand même clairement des gilets jaunes qui, de toute façon, n'ont pas envie de solution pour l'instant. Ils ont émis leur colère, qui est extrêmement leur violence, bien sûr, et une colère qui est très disparate. Et donc, ceux qui vont participer, à mon avis, ça va être, et c'est pas mal, ça va être la France. La France, j'allais dire la vraie France, mais les gilets jaunes sont la vraie France, bien sûr. Mais ceux qui vont y aller, il y a une forme de bonne volonté, on a envie d'en sortir. Et moi, j'ai la sensation que les gilets jaunes sont opposés à ce débat, ils n'en veulent pas parce que quoi que propose le président de la République, c'est pas bien pour eux. Donc déjà, c'est un sujet. Mais au-delà de ça, je ne comprends rien à cette organisation, et j'ai envie d'y croire. Je comprends rien à cette organisation, je comprends pas ce qui va en sortir, comment on va le traiter.
C'est la question qui est posée ce soir,
Mais par exemple, Sival. 5 garants. Très bien. Mais garant de quoi?
Mais oui, de quoi?
Garant de quoi? On n'est pas en liberté dans ce pays? Ils n'ont, les points de vue qui se sont manifestés, mais lourdement pendant des semaines et des semaines, nous sommes à la 9e semaine, n'ont pas été librement exprimés? Si! Alors, garant de quoi? De ce que les cahiers de doléances qui auront été écrits, vont
vous
être
dire
portés
qu'il y a une forme
comme
de transparence
telle,
qui va
mais
s'exprimer.
Mais tout ça est évident.
Sous nos yeux, oui.
Je comprends pas l'idée de garantie, puisque garantie de transparence, de liberté, mais évidemment.
Chloé Morin, vous êtes d'accord avec François Dorcival, il faut déstresser ce débat.
Oui, alors ça dépendra aussi, je pense, beaucoup de la personnalité des garants en question, donc la confiance que les gens pourront leur accorder et de la manière dont ils exerceront leur mandat. Si on les entend pas, s'ils n'ont jamais rien à dire sur la manière dont le débat est organisé, on se dira qu'ils ne servent
à rien.
Mais
quel débat ?
Stéphane Vernet, il y a également la question des violences. Il faut peut-être en finir avec ce qui se passe sur le terrain toutes les semaines. Violences y compris à l'égard des médias.
Alors, ça c'est autre chose. Je peux juste revenir
sur ce qu'on
vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de dire organisez vous-même des rencontres, des débats où on libère la parole au plus petit échelon, c'est-à-dire dans les associations, dans les mairies, dans les entreprises. Et le principe, c'est d'envoyer des kits, des modes d'emploi pour expliquer aux gens qui organiseront eux-mêmes des réunions, comment en extraire la parole et comment la faire remonter aux organisateurs. Et toute la problématique c'est celle de la confiance et de la défiance. On est à un moment où la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs politiques, de leurs journalistes, de leurs élites en général a jamais été aussi élevée. Oui. Et du coup, l'idée, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on parle de garant? C'est de dire, on va nommer des gens pour surveiller et superviser l'ensemble pour que ce que vous exprimerez sur le terrain soit réellement pris en compte et qu'il n'y ait pas d'entourloupe dans le process.
Mais Stéphane, je suis François bien Stéphane. D'accord avec ça, je comprends ça.
Ce que je comprends pas, c'est que du coup, on désigne des ministres pour superviser le truc parce que ça tue l'affaire.
Mais tout simplement parce que dans tout ce qui remonte, il y a mille choses qui remontent, et notamment on veut moins d'impôts, mais plus de services publics, on veut qu'on rouvre les écoles, mais on veut baisser notre TVA, etc. Tout ça, vraiment, il faut bien qu'en face, il y ait des responsables qui leur disent, écoutez les gars, ça c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Ils vont être frustrés de ce qu'ayant dit des tas de choses contradictoires, on ne les retienne pas.
Excusez-moi d'insister avec la CNDP, mais c'est la Commission nationale des débats publics a cette expertise-là. C'est-à-dire que dans la façon de pratiquer, ils savent recueillir les paroles et les paroles multiples, et ensuite ils savent les organiser, les hiérarchiser. Ils font en fin de parcours ce qu'ils appellent.
Ils ont la technique finalement de synthèse.
Ils ont ce savoir-faire, cette expérience. Elle est telle que, excusez-moi de vous l'en rappeler, mais ils avaient fait les conclusions de la consultation qui a été menée autour de la loi de programmation. La loi de programmation sur l'énergie.
Oui.
C'était le 30 juin dernier. Ils ont réuni 400 citoyens tirés au sort. Ils les ont fait débattre ensemble en leur disant, est-ce que vous êtes d'accord sur le consensus? Non, mais c'est la méthode qui voulait appliquer.
Il y a un grand débat.
Non, mais C'est la méthode qu'il voulait appliquer au grand débat en disant faites.
Qu'est-ce que vous dites? Vous dites occasion manquée, c'est ça? C'est ce que vous dites ce
mais
soir?
Mais oui, parce que manquée. Je vous rappelle que ce qu'ils avaient réussi à faire, c'est qu'ils avaient tout collecté, ils avaient dit aux gens qui étaient présents dites-nous si vous êtes d'accord avec le constat, hiérarchiser les priorités et délibérer sur chacun des points proposés et votez-les. 76% des personnes présentes avaient dit la fiscalité écologique est injuste, c'est une affaire de bobo qui pénalisera les pauvres. Si vous la mettez en place et mal accompagnée, vous aurez affaire à une jacquerie fiscale. Personne n'a écouté, c'est ce qui s'est passé. Le problème du grand débat aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce qui en sorte soit écouté par les politiques et pas l'inverse.
Alors nous
c'est pas fait pour que les politiques fassent de la pédagogie, c'est fait pour qu'ils écoutent ce que les Français ont à dire et qu'ils s'engagent à prendre des décisions par rapport à ce qui sera exprimé.
Nous évoquerons les maires de France dans un instant, ceux-là même qui sont censés faire remonter les doléances. On se retrouve dans un instant pour la suite des informés de France Info.
Je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec LinkedIn Jobs. Nomad Education développe des apps gratuites pour collégiens, lycéens et étudiants. J'ai posté sur LinkedIn Jobs pour recruter un développeur mobile et j'ai trouvé la candidate idéale, Christine. Elle a une grande expérience en développement d'interface et nous partageons la même ambition, faire grandir l'éducation en France.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
Si je te dis porte blindée et réseau théorie agréé, tu me réponds?
Point fort fichet, bien sûr.
Eh bien, du 15 janvier au 2 février, Point fort fichet t'offre la TVA sur les serrures et toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Sur Dell.fr, les bonnes affaires reprennent pour bien commencer l'année. Profitez des soldes sur Dell.fr sur une sélection des meilleurs PC Pro Dell dotés de processeurs Intel Core 8e génération. Les soldes pour votre PME, c'est maintenant sur Dell.fr ou appelez nos conseillers Dell.
France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Élodie Calac, les prévisions pour Météo France.
Ce sera contrasté demain sur la moitié nord. Ce sera bien encombré toute la journée avec en prime parfois un peu de brouillard le matin, quelques pluies éparses ou alors quelques flocons vers les Vosges. On ira chercher le soleil dans le sud. Dès le matin sur le relief, autour de la Méditerranée, ce sera du beau temps. Sur le sud-ouest, il faudra composer avec la grisaille matinale, mais le soleil reprendra l'avantage. Notez que le Mistral et la Tramontane faibliront enfin, pas plus de 60 à 70 km à l'heure. Et puis les températures baisseront, quelques petites gelées le matin sur le massif central et les régions de l'Est. L'après-midi, 6 degrés à Strasbourg, 7 à Clermont-Ferrand et Grenoble, 9 à Amiens, Paris, Rennes et Agen, 12 à 16 degrés autour de la Méditerranée, les 16 pour Narbonne, Nice ou Ajaccio.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Le Premier ministre Édouard Philippe a levé ce soir une partie du mystère, une partie seulement sur l'encadrement du grand débat qui sera lancé demain pour deux mois par le chef de l'État et qui se veut une réponse à la crise des Gilets jaunes. C'est bien duo de ministres qui sera chargé de l'animer, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon. Et il y aura également un comité de 5 garants. Ils seront nommés par l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore le Conseil économique et social. La divulgation des heureux élus sera connue normalement vendredi et c'est demain depuis la petite commune de l'Eure de Grand-Bourg-de-Roulde que le chef de l'État lancera ce grand débat pour deux mois aux côtés de 600 maires et élus de Normandie. La famille de la patiente décédée aux urgences en décembre à l'hôpital Lariboisière de Paris a décidé de porter plainte contre X aujourd'hui pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Cette femme de 55 ans est morte 12 heures après son admission et le rapport de l'enquête interne diffusé aujourd'hui fait état de nombreux dysfonctionnements. Il pointe aussi le manque d'effectifs à l'hôpital, mais ce n'est pas assez pour l'avocat de la famille, Maître Eddy Arneton.
La famille a considéré que ce rapport était pour le moins insatisfaisant. Elle s'interroge sur les causes de la mort de Madame Myrtil, puisque ce rapport, non seulement il est incomplet, mais au surplus, il n'indique nullement les raisons pour lesquelles Madame Myrtil a été retrouvée à 6 heures du matin décédée. Nous attendons en effet les conclusions de l'autopsie qui ne sont toujours pas parvenues. C'est pour cela qu'une plainte a été déposée. C'est que la lenteur de la justice aussi est quelque peu surprenante. Donc il s'agit en effet d'obtenir la vérité et d'obtenir des réponses que la famille attend depuis, ma foi, un certain nombre de temps.
L'avocat maître Eddy Arneton, un touriste hollandais âgé d'une soixantaine d'années qui skie avec son fils dans la station de ski de Valmorel en Savoie, a trouvé la mort victime d'une avalanche alors qu'il faisait du ski hors piste. Le risque d'avalanche est de 4 sur 5 dans les massifs alpins, particulièrement en Haute-Tarentaise et dans le Beaufortin. L'auteur de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre dernier aurait prémédité son acte, selon une information de nos confrères de France 3. Shérif Chekat, qui a tué 5 personnes et fait 10 blessés avant d'être abattu par les policiers, tenté de se procurer des armes depuis plusieurs semaines. Il aurait aussi confié à ses anciens codétenus ses projets terroristes dès 2015. Et puis à suivre à partir de 20h30 ce soir, le troisième match des Français dans le championnat du monde de handball. Ce sera face, je ne sais plus, les informés. La deuxième partie, Jean-François Aquili.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Alors vous le savez, demain après-midi, le chef de l'État lancera ce grand débat en se déplaçant dans le département de l'Eure. Les maires auront un rôle essentiel, a-t-il écrit dans sa lettre. Le président qui a reçu en début d'après-midi Vanik Berberian, il est le président de l'association des maires ruraux de France, accompagné d'une délégation. Tous ont remis au chef de l'État, eh bien, les premières doléances. On parlait de cela dans la première demi-heure. Et propositions collectées sur le terrain. Vanik Berberian, maire de Gargilès-d'Empierre dans l'Indre, dans la cour de l'Élysée.
On espère que ce débat sera l'occasion donc de mettre sur la table un certain nombre de choses avec l'espoir et la conviction qu'il faudra impérativement que le gouvernement en tienne compte. Parce que si c'est uniquement recueillir des doléances et dire dans un grand élan de générosité « je vous ai compris » sans qu'il se passe quelque chose derrière, ça ouais. risquera de poser problème.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent, ces maires de France scintillent de leur écharpe tricolore dans la cour de l'Élysée. Chloé Morin, il l'a tout dit, monsieur Berberian. Qu'est-ce qu'on va en faire à la sortie des doléances en question?
Oui, exactement. D'ailleurs, pour l'instant, on rappelle souvent que les maires sont les derniers élus qui soient relativement populaires. Mais enfin, le dernier baromètre du CEVIPOF montrait qu'il était, il y avait 58% de confiance dans les maires, quand pour le président de la République, c'est entre 20 et 25%, je ne sais plus. Et quand on regarde les partis politiques, par exemple, c'est moins de 10%. Donc, heureusement qu'il y a les maires. Et s'il fallait des garants, finalement, à ce débat, peut-être que c'est au maire que les Français feraient le plus confiance.
Oui, François Dorcival, est-ce que vous sentez qu'une nouvelle redistribution des cartes pourrait sortir de cette longue crise des Gilets jaunes, savoir que le maire deviendrait le rouage essentiel et plus le député?
Oui, alors, ça vis-à-vis de l'électeur, vis-à-vis de l'électeur, c'est possible. Mais si on doit changer de régime, c'est-à-dire passer de la démocratie représentative à la démocratie directe, alors ça, c'est une vraie révolution. Et à mon avis, heureusement, on n'en est pas là. Mais ce que je voudrais dire à partir de là, justement, c'est qu'en effet, le maire pose très très bien la question en disant que va-t-il en sortir ? Et il faut qu'on en tienne compte. Donc, quand on voit les étapes de l'action gouvernementale depuis le mois de décembre, on voit bien que la première chose que le président de la République a faite le 10 décembre, c'était de mettre sur la table 10 à 12 milliards de réduction d'impôts et de distribution de primes. Donc ça, c'est la partie dépenses, réponse aux Gilets jaunes, oui. Dépenses. Puis il a annoncé ce grand débat, c'est la partie politique. Est-ce qu'on peut cumuler de nouvelles dépenses, qui vont s'ajouter à la partie politique? Ma réponse est non. On ne le pourra pas. Et donc, ce qui va sortir de ce grand débat, ce sont en effet des questions institutionnelles.
Oui, le proportionnel, le Sénat.
C'est justement l'objectif.
Ça coûte du point de vue des institutions, mais ça coûte pas cher en matière de budget.
Oui et non, parce que quand même, dans sa lettre, il explique que les impôts pour eux sont trop élevés, les services publics trop éloignés, et il explique que si on baisse les impôts, on a forcément moins de services publics. Donc, il a quand même bien expliqué. Donc, là, il y a un autre débat. Un autre débat bien plus intéressant, si je puis dire. Ça aurait été de lancer un grand débat national sur la dépense publique. Que les Français prennent conscience de ce que ça coûte. Mieux d'hôpital, plus d'écoles, mais par contre, je suis prêt à laisser ça.
Mais c'est pas le rôle du gouvernement, ça, au fond, à la base, à la source.
Ça fait partie des quatre grands thèmes, la dépense publique. Mais si vous voulez, il y a des réponses. En fait, il y a des réponses à trouver à assez court terme à l'issue de ces discussions. Et puis après, il y a une réponse à plus long terme qui passera par un nouvel acte de la décentralisation. Aujourd'hui, une des problématiques qui en fait est soulevée, mais sans le dire par ce mouvement, c'est le rapport des citoyens avec l'État. Et ça passe par par plus de confiance, plus de moyens donnés aux régions, aux départements, aux communes, que sais-je. Mais une vraie réflexion.
Plus de moyens, ça marche pas.
Réorganisation complète de l'État, parce qu'aujourd'hui, une des problématiques qu'on a aussi, c'est qu'en fait, on a un État hydrocéphale qui a diminué ses moyens et ses ressources dans les régions et dans le local et sur le terrain, et qui se retrouve avec une grosse tête à Paris et un tout petit corps en région. Et c'est aussi ça qu'il faut corriger. Et ça passe par une réflexion de fond, un vrai travail avec les maires, avec les élus, et un nouvel acte de la décentralisation. Mais ça se fera pas en deux mois. Alors, ça se fera pas à l'issue d'un débat ou d'un référendum à l'issue de deux mois de débat.
Chloé Morin, est-ce qu'il y a un équivalent étranger?
Alors non, il n'y a pas d'équivalent étranger à cette échelle en tout cas. Donc c'est vrai que tous mes collègues étrangers nous regardent avec curiosité intérêt pour voir ce que ça va donner. Il y a des sujets, évidemment, il y a des débats qui ont été organisés sur des sujets plus restreints. Mais de manière pas forcément publique. Par exemple, l'Allemagne, il y a un débat qui a été organisé sur l'immigration l'été dernier, qui a été organisé par Seehofer, qui a été suivi d'un certain nombre de recommandations, et ça a failli faire exploser l'alliance CDU-CSU. Donc, il faudra
voir. La Suisse aussi, quand même, procède à ce genre de...
Ce sont des référendums.
Mais après, il y a un aspect de ce débat qui est intéressant, c'est la clarification. C'est-à-dire qu'une partie de la popularité du mouvement des Gilets jaunes jusqu'ici, ça a été le fait, justement, de porter tellement de revendications qu'il englobe tout, que tout le monde peut s'y retrouver, et de ne pas avoir à trier et à trier entre les contradictions. Là, aujourd'hui, à travers le débat, finalement, c'est forcer quelque part les gens à se positionner et forcer chacun à être confronté à ces contradictions-là.
Allez, je vous rappelle que ce débat donc démarre demain, mais tout de suite, 20h40 sur France Info, c'est le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le coup d'envoi du grand débat national, c'est pour demain dans l'heure depuis la commune de Grand-Bourte-Rould. Pour garantir l'indépendance de cette grande consultation, un collège de 5 garants va être nommé. Le nom de ses membres est attendu vendredi. Deux ministres seront en charge du pilotage de ce rendez-vous censé répondre à la colère des Gilets jaunes. Deux journalistes de LCI et leurs agents de sécurité portent plainte. Samedi, ils ont été violemment agressés lors de la manifestation des Gilets jaunes à Rouen. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Un skieur hollandais tué cet après-midi dans une avalanche à Valmorel en Savoie. Il faisait du hors-piste avec son fils qui l'a sorti de la neige. L'homme est mort peu avant l'arrivée des secours. La Savoie est depuis hier soumise à un risque d'avalanche de niveau 4. Le président américain appelle la Turquie à ne pas maltraiter les Kurdes du nord-est de la Syrie. Ces miliciens kurdes qui ont combattu contre l'État islamique sont considérés par Ankara comme des terroristes. Ils sont une cible de la Turquie depuis l'annonce du retrait de l'armée américaine de Syrie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous allons aborder à présent la campagne des européennes. Mais Sophie de Menton, je profite d'une petite minute, je me tourne vers vous. Vous avez fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux suite à une déclaration que vous avez faite. Je ne vais pas vous relire.
Un article,
sur Challenge, c'est ça?
Absolument.
Oui, et donc, et vous, vous évoquiez la difficulté de l'information continue et qui était, selon vous, génératrice du fait de la répétition des images de violence en boucle, d'une certaine forme de violence en retour.
Je faisais allusion à un phénomène de société avec des chaînes en continu en disant qu'on avait une concurrence commerciale entre ces chaînes, que c'était devenu un produit, l'information, qu'il fallait vendre, que les acheteurs, c'était les téléspectateurs, et que j'ai été choquée, mais je crois que j'étais pas la seule, avoir en permanence des images en boucle, y compris, je pense, aux boxeurs, etc., de violence en permanence, les gilets jaunes, etc. Et je me disais qu'il y avait une vraie réflexion à avoir sur ce thème, ce qui, et je tiens à le préciser, n'a rien à voir avec le scandale absolu qu'il y a à agresser des journalistes, évidemment.
Voilà, ça méritait d'être précisé.
Oui, ça méritait d'être précisé.
Ce soir. Allez, nous allons évoquer l'Europe dans la ligne de mire de Marine Le Pen à présent. La présidente du Rassemblement National qui a lancé sa campagne hier veut prendre sa revanche sur Emmanuel Macron. Écoutez le propos de Jordan Bardella, la tête de liste du RN, du Rassemblement National aux Européennes. Il était ce matin l'invité de RMC BFM TV.
Si M. Macron se refuse aujourd'hui à dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui semble visiblement être le cas, et ce que nous avions proposé, je crois qu'il faut se saisir des élections européennes pour lui infliger une fessée électorale. Voilà. Nous donnons rendez-vous aux Français dans les urnes le 26 mai pour que les Français puissent se faire entendre aujourd'hui sur la politique qui est la sienne, sur l'arrogance et le mépris avec lequel ils gouvernent et qui commence sérieusement à exaspérer nos compatriotes.
François Dorcival, il y a un petit parfum de revanche dans l'air. L'expression fessée électorale est d'ailleurs assez...
C'est de son âge, il a 23 ans.
Oui. Commentaire de Sophie de Menton, oui.
Oui, il y a un petit air de revanche, mais tout le monde sait que la bataille des élections européennes, c'est maintenant d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays, c'est une bataille intérieure, et pas une bataille sur l'Europe. Pas une bataille sur l'Europe. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le propos de Marine Le Pen. Propos de, pardon, mais de citer mon journal, dans lequel elle dit très bien, dans Valeurs Actuelles de la semaine, elle dit très très bien que, après tout, sortir de l'Europe n'est plus du tout son objectif. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, ce qu'elle voit, c'est la capacité ou la possibilité que un certain nombre de pays, avec une présence populiste, entre guillemets, forte, auront de désigner des commissaires européens, c'est-à-dire de prendre progressivement le pouvoir en Europe. Et donc, pourquoi sortir d'un club quand on est en train de gagner sa place?
Puis le Brexit, franchement, ça n'a pas dû être quelque chose qu'il a... Elle a dû comprendre quand même ce qui
se
passait.
Non, mais les Français n'en veulent pas. Et par conséquent, elle va sur ce point-là en disant, mais effectivement, nous ne sommes pas destinée à sortir de l'Europe.
Chloé Morin, l'Europe est de ce fait aujourd'hui extrêmement fragilisée. Le paysage a totalement changé.
Oui, alors je vais répondre
en Italie,
à cette...
En Hongrie, en Allemagne, effectivement en Grande-Bretagne.
Je voulais juste dire un mot sur Marine Le Pen avant de passer à l'aspect européen. On dit qu'elle est remise en selle, etc., etc. Je pense que c'est par défaut. C'est surtout que les autres sont en difficulté. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a l'air d'être en difficulté, qui a sans doute fait des zigzags dans son positionnement et était un peu trop... effrayant du point de vue de certains électeurs. Mais elle, quand on regarde les intentions de vote pour les européennes faites depuis septembre dernier, elle est toujours à peu près autour de 20. Il n'y a pas de progression spectaculaire, etc. C'est les autres qui s'effondrent. C'est LR qui, aujourd'hui, est autour de 10, alors que c'est censé être le parti de la droite de gouvernement. Donc je pense que ça c'est pour une chose. Ça ne remet pas en cause le fait que, pour l'instant, elle est en tête des sondages ou parfois derrière LREM, etc. Mais ça permet de relativiser. Ensuite, oui, il y a les populistes en Europe ont le vent en poupe. Quand vous regardez en Allemagne, si vous faites la somme de tous les populistes, c'est-à-dire extrême droite et puis Die Linke, ils seront probablement autour de 25%. Lorsque vous regardez l'Italie, Salvini, le gouvernement et...
C'est le nouveau visage de l'Europe?
Eux qui sont en dynamique. Salvini n'a jamais été aussi populaire. On voit partout que les débats tournent plutôt autour de l'immigration, de l'identité, de l'islam, et donc des sujets qui portent vraiment les populistes. Et quand on regarde par exemple en Suède, les Suédois ont voté en septembre dernier. Les démocrates de Suède, donc les populistes, ont fait une percée sans précédent et ils sont encore ils sont de plus en plus populaires. Donc et partout, on voit bien que ce sont les thèmes plutôt ouais. les thèmes migratoires, etc. Ouais. Mais combinés à la thématique de la justice sociale. Donc d'une certaine manière. C'est normal que ça nourrisse aussi le discours de Marine Le Pen.
Dans cet ordre d'idées, Stéphane Vernet, le pouvoir en Italie a manifesté, on le sait, son soutien aux Gilets jaunes. Est-ce que Emmanuel Macron devient une sorte d'ennemi pour une sorte de convergence qui passerait de la France à l'Italie, à la Hongrie et ailleurs?
C'est-à-dire qu'à un moment où le président de la République française avait le vent en poupe et il avait tendance à s'exprimer beaucoup sur ce qui se passait à l'étranger et à donner un peu des leçons, c'est la monnaie de sa pièce en fait. Il y a une espèce de revanche et pas qu'en Europe, hein, puisqu'on a entendu Trump, Poutine, Erdogan s'exprimer sur la situation française. Mais peut-être simplement pour revenir les enjeux des européennes aujourd'hui. Moi, il y a trois choses que je vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a de moins en moins de forces politiques qui demandent à sortir de l'Europe, où elles sont très minoritaires. Par contre, tous les grands partis, mais alors de tout le spectre, disent la même chose. Cette Europe qui va mal, qui fonctionne mal, qui est assez peu démocratique, il faut la changer. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas la même façon de penser ou de voir. Enfin, ils n'envisagent pas les changements de la même manière. Première chose. Deuxième chose, on dit le Front National, le Rassemblement National. On oublie que les européennes sont quand même des élections qui, depuis longtemps, sont très favorables au Rassemblement National. C'est le Front National qui a gagné les dernières européennes. C'est un mode de scrutin et un type d'élection qui est plutôt favorable au Rassemblement National. Donc, il ne serait pas illogique qu'il l'emporte à nouveau.
Cette fois-ci encore, oui.
Et encore plus porté par le contexte. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, comme l'a très justement dit François Dorcival, chaque pays va voter pour les européennes en fonction de son contexte national. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que les contextes se ressemblent de plus en plus et qu'on pourrait très bien avoir à l'arrivée, sans l'avoir forcément recherché ou calculé, une majorité de gens. Alors peut-être pas une majorité, mais ce qu'a en tête le Rassemblement National, c'est d'arriver à finalement à avoir un Parlement européen renouvelé dans lequel le PPE serait peut-être en tête, mais de peu. Et derrière, réussir à créer un grand parti qui soit au moins en deuxième position. Mais la situation est telle qu'on peut aussi imaginer, sans faire de la politique fiction, qu'on puisse arriver à ce que qu'ils aient la majorité à l'arrivée.
Un petit mot, on peut quand même pas accuser Macron en fait du déboire européen en disant qu'il a donné des leçons, il a essayé, il croit, c'est un Européen convaincu et il y croit, il a envie d'essayer de faire revivre l'Europe parce que c'est vrai qu'elle est très morcelée. Et puis je voudrais insister sur le fait que attention au mot populisme, il y a quand même une forme de mépris dans ces mouvements populistes parce que ce sont des revendications qui ne sont pas politiquement
Vous contestez. Vous contestez l'appellation populiste?
Alors, c'est pas que je la conteste, c'est que les gouvernements n'ont pas su répondre au peuple. Et du coup, il y a des aspirations. Ils ont le droit de pas vouloir une immigration et de ne pas accueillir. Ils ont le droit de certains. On s'est un peu assis sur les désirs des peuples en Europe, au nom de l'Europe. Et donc, maintenant, on méprise les populistes. Les populismes, c'est quelque chose de mal. C'est vrai que je ne partage pas du tout la plupart de ces convictions, mais je trouve que c'est un peu facile.
Alors, c'est quelque chose de mal, Chloé Morin, rapidement là-dessus, et François Dorcival aussi.
Non, il y a un débat. Évidemment que le mot populiste peut être souvent utilisé pour disqualifier les critiques lorsqu'elles nous plaisent pas. Après, c'est vrai que il n'y a pas d'autre appellation. C'est par opposition à parti de gouvernement ou par opposition.
Il finira par y avoir une fierté populiste, vous savez. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que l'Europe n'est pas menacée en tant que telle. Je rejoins entièrement ce que disait Stéphane. Ce qui est menacé, c'est le pouvoir de la social-démocratie chrétienne. C'est-à-dire l'accord perpétuel entre les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens qui faisait qu'il y avait les deux bouts et ces deux bouts étaient tout le temps minoritaires. Donc, évidemment, l'Europe fonctionnait grâce à ce système. Ce système-là, il est aujourd'hui, lui, menacé.
Allez, 20h51 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Leurs noms encore inconnus seront dévoilés vendredi. Un collège de 5 garants va être nommé pour garantir l'indépendance du prochain grand débat national. La grande consultation pour répondre à la colère des Gilets jaunes démarre demain depuis l'heure et en présence du chef de l'État. L'attentat de Strasbourg en décembre dernier a été préparé pendant plusieurs mois, indiquent ce soir nos confrères de France 3. L'auteur de l'attaque, Chérif Chekat, a notamment cherché des armes auprès de trafiquants. Il avait aussi annoncé l'été dernier à ses proches sa volonté de mourir sans être pris au sérieux. L'attaque de Strasbourg le 11 décembre dernier a fait 5 morts, 10 blessés. Cesare Battisti, incarcéré en Sardaigne, l'ancien militant d'extrême gauche, est arrivé ce matin en Italie après son expulsion de la Bolivie où il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Après des années de cavale en France, au Brésil, l'Italie demandait son extradition pour qu'il purge une peine de prison à perpétuité pour 4 homicides commis dans les années 70. La France joue en ce moment face à la Corée pour son 3e match dans la Coupe du Monde de handball. Les Bleus restent sur 2 succès consécutifs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Thomas Benesch l'évoquait à l'instant, Matteo Salvini vit la capture de Cesare Battisti comme une bénédiction, voire un triomphe. Le ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue en Italie a même fait le déplacement en personne ce matin à l'aéroport de Rome Ciampino avec son collègue de la justice. Écoutez les mots de Salvini à l'endroit de Battisti.
Finalement, après 37 ans,
il finira
là où il le mérite.
C'est
un assassin, un délinquant, un infâme, un lâche qui ne s'est jamais excusé.
Chloé Morin, les propos ne sont pas surprenants.
Non, les propos ne sont pas surprenants. D'ailleurs, toute la classe politique italienne, à quelques rares exceptions près, a salué cet événement. Ce qui est intéressant, c'est que Salvini tire la couverture à lui en disant que c'est grâce à lui. Parce que grâce à ses bonnes relations avec Bolsonaro, le président brésilien.
Oui, Sophie de Menton, nous sommes loin des années Mitterrand, souvenez-vous. Cesare Battisti avait passé une quinzaine d'années en France.
Il était
concierge, il écrivait des livres, il était libre.
Oui, et je crois que nous vivons une époque où on ne peut plus avoir ce type de tolérance. Je crois que ça fait peut-être aussi partie d'une forme de populisme, comme on dit, qu'on veut voir les coupables punis, que c'est un assassin, mérite d'être puni, et il n'y a plus du tout. Je crois qu'il y a une disparition de cette idéologie facilitatrice de bonne conscience de gauche.
Stéphane Vernet, que dire du cas de Cesare Battisti? Il a 64 ans aujourd'hui. Il a toujours d'ailleurs clamé son innocence. Il dirigeait les PAC, hein, les prolétaires armés pour le communisme. Les temps changent. Aujourd'hui, les consciences évoluent. Les comptes sont soldés.
C'est-à-dire qu'il faut aussi se méfier de la façon dont on regarde les choses. Moi, il me semble qu'en France, on a plutôt tendance à se dire que c'est un écrivain auquel on reprocherait une jeunesse un peu agitée. Les Italiens n'ont pas du tout,
la même
vision de Cesare Battisti.
Et ils l'ont jamais eu.
Pour eux, c'est un braqueur qui est devenu terroriste et qui, sur le tard, s'est mis à écrire. C'est pas la même chose. Oui. Donc, faut se méfier de ça aussi, la façon dont on vit les choses. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit peut-être que les rapports entre le Brésil et l'Italie évolue, c'est-à-dire que le nouveau président Jair Bolsonaro a peut-être une nostalgie de la lutte armée, mais pas la même. C'est une autre façon de voir les choses aussi. Ouais, et puis bon. Moi, ce qui me frappe dans les images, alors les auditeurs à la radio les voient pas, mais les images que vous nous avez montrées, c'est qu'on voit Cesare Battisti qui, il me semble-t-il, porte un uniforme de la police.
Vous voulez dire
sur le
non vous voulez dire
je fais le même lapsus que vous tout à l'heure Jean-François.
Matteo Salvini
porte un uniforme de la police sur le tarmac,
ministre de l'Intérieur.
J'ai l'explication, c'est ça fait partie de, en ce moment il y a énormément de débats sur la sécurité, je pense que c'est un des débats qui va s'imposer dans la perspective des européennes, et donc il se déguise entre guillemets, ça fait partie de la campagne pour ce
c'est quand même étonnant.
Stéphane Dernier, vous trouvez cela étonnant?
L'extraterritorialité de Cesare Battisti, c'est fini. Et enfin, il va être jugé. Tout le monde l'appelle l'assassin, etc. Bon, on verra, mais au moins, il sera jugé en droit. Et puis voilà.
Chloé Morin, l'Italie d'aujourd'hui, c'est ce nouveau visage d'un pouvoir, au fond, assez musclé, il faut le dire, assez ferme sur les questions d'immigration.
Par exemple,
ça rattrape nos débats nationaux. Hein.
Ouais. Oui, mais bon, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement est extrêmement populaire.
Italien.
Et ça fait Le gouvernement italien, oui. Ça fait presque un an qu'il est au pouvoir. C'est en mars, les élections.
Oui,
donc,
oui. Et il est, non, pour l'instant, depuis il n'est pas... Depuis le 1er juin.
Ça voilà. Et quand, on, quand on prend, par exemple, certains sujets ouais. comme l'immigration, il y a encore 51% des Italiens qui adhèrent à l'idée qu'il ne faut absolument pas qu'un seul immigré pose le pied en Italie. Donc, les positions qui sont celles de Salvini sont vraisemblablement partagées par la majorité des Italiens. Et ce qui était frappant, c'est que dans nos études, on a vu, suite aux élections de mars, que le nombre d'Italiens qui considéraient que la démocratie fonctionnait mal dans leur pays et que leurs idées étaient mal représentées a chuté de 40 points. Et que donc aujourd'hui, l'Italie est le pays, dans les 30 pays qu'on sonde, est un des pays où les gens sont les moins en moins nombreux à considérer que la démocratie fonctionne mal.
Mais vous ne pensez pas que économiquement, c'est un véritable problème ? Parce que par contre, ils ont complètement laissé tomber, là, économiquement. Il n'y a plus aucune rigueur européenne, etc. Non. Donc, c'est assez inquiétant.
Non, la dette italienne n'est pas comparable
à la possède, nôtre. Il la possède,
ce sont
c'est
eux
vrai.
Qui en sont les, oui, mais les quand détenteurs. Même. Et donc, c'est pas la même chose du tout. Et le climat de défiance qu'il y a dans notre pays à nous, français, et c'est le climat de confiance qu'il y a chez les Italiens. Et dans le domaine économique, ça compte énormément.
En tous les cas, ce grand débat démarre demain. Stéphane Vernet, j'imagine qu'il va faire la une de Ouest-France.
Mais si vous imaginez bien, et on est allé faire un reportage à Grand Bouterould, le débat va démarrer. Donc on va voir ce que les gens du coin avaient à en dire.
En Normandie, François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Eh bien,
cette
semaine. Ce sera François-Xavier Bellamy. Le futur star de la liste de droite aux élections européennes.
Tête de liste Les Républicains. Merci à Sophie de Menton, merci Chloé Morin, François Dorcival et Stéphane Vernet d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonsoir.